Marius. Mais j'ignorais qu'il était déjà tard. À genoux face au pouvoir des enfants! À genoux face au pouvoir des enfants! À genoux face au pouvoir des enfants! À genoux face au... Oul! Bing! Paf! À genoux face au pouvoir des hypnobrés! Un monsieur se battit vaillamment, mais au final, les adversaires étaient bien trop nombreux. Rends-toi! Papa, papy, mamie, je suis arrivée trop tard pour les sauver. Mais il était encore temps de mettre notre plan à exécution. De sauver tout le monde. Lino. Après de nombreuses batailles, l'enfant prend des décisions comme fonder une société appelée Flocon Nocturne. Son but ? Réduire la pollution, le harcèlement, les menaces comme le feu, la faim des animaux ou de notre terre. Et l'enfant demanderait aux plus grands scientifiques du monde de travailler ensemble pour créer un carburant à base d'aliments végétaux. L'enfant essaye aussi qu'il n'y ait plus de pauvres dans le monde et qu'il y ait la paix dans le monde entier. Les adultes seront très bien traités. Les enfants surveilleront les incendies et feront en sorte que l'homme n'ait plus besoin de brûler des forêts comme la forêt amazonienne. Fin. Thelma. Comment ratatiner ses parents ? En 5 leçons. Leçon 1. Quand vos parents vont se coucher, allez chercher du maquillage ou de la peinture et maquillez vos parents. Le lendemain, effet direct au réveil. Leçon 2. Avant que les parents se brossent les dents, remplacez le dentifrice par de la peinture. Résultat immédiat. Leçon 3. Avant que les parents mangent, changez les ingrédients. Exemple, le sucre en sel, la confiture en coulis de tomate, le beurre en fromage, etc. Leçon 4. Pendant la nuit, mettez le réveil à 4h du matin. Résultat à 4h. Leçon 5. Si vous avez un petit frère, une petite sœur, faites-lui porter le chapeau. Exemple, cachez le maquillage dans sa chambre, etc. Bonus. Si vous ne voulez pas aller à l'école, faites croire que vous êtes malade. Faites le coup du thermomètre sur radiateur à 40 degrés. Alma. Les enfants ont pris le pouvoir. Plus de pouvoir pour enlever les moustiques. Plus de devoirs. On peut regarder des films tout le temps et des épisodes. On peut avoir plein d'animaux. On peut faire du chien traîneau, de la campagne, partout. Plus de pollution. Plus d'avions. Et on invente quelque chose d'autre pour voyager. On peut inventer des dragons. On n'est plus obligé d'écrire. Ernesto. Alors, Ernesto, imagine un monde dans le futur où les enfants, ils ont le pouvoir. Qu'est-ce que cela t'inspire ? Ça m'inspire que les enfants ont le pouvoir et du coup, ils peuvent menacer les policiers. Il y a trop de prisons et c'est pas très bien. Ils tuent, donc ils méritent d'aller en prison. Aussi, les enfants voleraient des hamburgers et la cantine serait meilleure.
Ça rime.
Tu as la chanson
« Si j'étais président de la République ».
Et toi, qui es un enfant, si tu étais président, qu'est-ce qui se passerait ? Il se passerait que moi, j'interdirais la prison. J'interdirais le gouvernement. J'interdirais de tuer. J'interdirais de mettre des bombes atomiques. J'interdirais de faire éclater des pneus. Car ce matin, le 25 mars 2021, il y a un pneu qui a éclaté et ça nous a fait sursauter dans le conservatoire. Du coup, j'interdirais dans la loi les voitures. J'interdirai dans la loi les jeunes qui font éclater des pétards. Je déciderai que tous les sièges des concerts sont disponibles pour tous les chanteurs. Je déciderai que tous les gens mettent le masque sur leur bouche contre une amende sinon de 200 euros. 135 euros normalement. Je mettrai tous les salaires à, je dirais, 3000 euros. L'hôpital, 3000 euros. Médecin, 3000 euros par mois. Après, pour les bars, 2000 euros. Car c'est un métier important, mais bon, voilà. Pour les maisons, les immeubles... Je mettrai les loyers à, on va dire, 412 euros, quand il y a des petites pièces. Non, plutôt 286 euros. Pour les maisons, avec piscine et jardin immense, je mettrai les loyers à 5000 euros. Pour une maison normale, je les mettrai à 900 euros. Non, je mettrai les loyers pour tout le monde à 800 euros. Un monde meilleur. Je ne serai pas désagréable comme Macron, comme Marine Le Pen. Je donnerai de l'argent aux pauvres. 1000 euros, à peu près, par semaine, pour qu'ils achètent des maisons. En une semaine, ils payent leur maison, et la semaine d'après, ils achètent de la nourriture. Voilà. J'interdirai les voitures et les déplacements inutiles dans un rayon de 1 km. Ce qui n'est déjà pas beaucoup. De l'entrée à la sortie du Jardin des Plantes, on compte, vous voyez, 750 mètres. Un kilomètre, cela ferait une fois le Jardin des Plantes, plus trois fois la distance d'ici à la Vie Claire, par exemple. Donc voilà, j'interdirais les déplacements inutiles à voiture dans un rayon de 2,5 km. Le vélo, je mettrais plutôt plein de vélos électriques, comme ça ils n'utiliseraient pas leur voiture. Les usines de voitures, je mettrais des bombes dans les usines de voitures. Je supprimerais YouTube et je mettrais Instagram à la place, car YouTube, ça utilise des usines et ça fait de la pollution. Je veux péter les voitures. Les gens ne seraient pas contents, mais après, je leur donnerais de l'argent en échange. Voilà. Et dans les magasins, je mettrais les montres en or à 1 000 euros. Un canapé en or coûtant 2 000 euros, pas beaucoup, car normalement, cela coûte 1 million d'euros. Et un ordinateur en or coûterait 3 486 euros, moins cher que mon hautbois. Je dirais aussi qu'une couette en or coûterait 200 euros, ce qui est quand même pas beaucoup. Un livre en or coûterait 1 000 euros. Aussi, j'interdirais à tout le monde de polluer. Le plastique, je mettrais des cartons à la place. Même si c'est inutile d'emballer des trucs avec des cartons. Par exemple, du film plastique, moi je le fais avec du carton. Moi, il y a presque toute ma famille qui utilise du plastique et qui jette parfois par erreur des papiers. Mais je la remercie de bien traiter les animaux, de laisser des insectes en vie. Pas les poissons, ceux de Tata Émilie. Je trouve que le coronavirus est dur, mais il faut s'habituer à mettre le masque sur le nez et respecter les gestes barrières. Il y a même des amendes de 135 euros pour cela. Cela me gêne quand dans le métro, il y en a plein qui ne le mettent pas sur le nez. Moi, je ferais péter les téléphones dans le métro. Il y en a plein, ils téléphonent et en fait, ils chantent ultra fort. Ma maîtresse Alice me dit qu'il y avait une dame et elle parlait ultra fort dans le bus. Les gens se sont même disputés avec la dame. Du coup, j'interdirais dans la loi les disputes. Je mettrais plein de caméras de surveillance dans les écoles. Je ne remercie pas ceux qui ont volé des feutres à Marek et de la nourriture à ma maîtresse. Voilà. Je vous dis au revoir et bon courage avec le coronavirus. Ceux qui veulent faire tous les métiers, ce sera dur pour ceux qui veulent être chanteurs. À The Voice Kids. Maxime Rose. Dans ce monde, la vie serait beaucoup plus détendue car les enfants pourront faire tout ce qu'ils voudront. Ce serait le monde des enfants. Il y aurait toujours l'école, mais avec moins de devoirs. Et l'école serait plus facile. Les parents auraient plus de vacances et pourront donc passer plus de temps avec leurs enfants. Le Covid-19 serait tué en un rien de temps. Donc, les piscines, bars, restaurants, musées seront ouverts. Les parcs seraient plus grands. Les présidents et les policiers seraient des enfants. Les majeurs n'auront pas le droit de voter. La conclusion est, si les enfants dirigeaient le monde, la vie serait plus facile. Loïse. Sans parents, on pourrait se rentrer dedans. Parce que sinon, ça ferait des accidents de voiture, parce qu'on ne sait pas conduire les voitures. Les enfants ne savent pas faire à manger. Peut-être qu'ils brûleraient le manger. Si on a de la chance, on pourra servir des yaourts et des fraises et tout ce qu'il y a dans le frigidaire, sauf les trucs qu'on fait au four. Les enfants ne pourraient pas apprendre à faire des choses, puisque plus d'école. Les bébés ne pourraient pas manger. Victoire. Un enfant, c'est comme un adulte, avec peut-être quelques années d'expérience en moins. Pourquoi ne demander conseil qu'aux adultes ? Pourquoi les décideurs, présidents, ministres, députés, CPE et j'en passe, ne devraient être que des mâles et quelques femelles d'une cinquantaine d'années minimum ? Ouais, tiens, c'est bien la remarque de la meuf de 17 ans, mais c'est vrai, tiens. Ça leur arrive de décider des trucs tellement absurdes. Un enfant ne pourrait jamais comprendre de telles idées. Oui, un enfant a peut-être moins de tact. Il est probablement moins civilisé, mais ses actions sont bien plus franches et loyales. On ne parle donc pas d'individus convoiteux, vicieux, intéressés. Au contraire, l'enfant est bienveillant. Ils ont des réactions bien plus spontanées et sincères. Ils parlent sans préjugés. Disons qu'on peut parler d'enfants dépassés les 3 ans, sinon ça ne sait pas parler. C'est sûrement bidon, mais les enfants jouent, sourient et s'émerveillent bien plus que les adultes, non ? En bref, pour rien au monde, nous nous passerions de telles qualités, car c'est ça la vie. parler, apprendre, discuter avec des enfants, il y a quoi de plus enrichissant ? Aurel. Children power ! Oh là là, un monde où les enfants décident tout. Interdiction de tuer, de blesser, etc. Les écrans seront toujours accessibles. Déjeuner, dîner, petit déjeuner, quand on veut. Rien d'interdit, on mange ce qu'on veut. Ne pas être réveillé quand on n'en a pas envie. Pouvoir choisir le temps d'école. On devra tous aider les associations comme VVF, World Wide Free, etc. Et rien ne nous en empêchera. Mulin. Children power. Pour faire les adultes des servants. Les enfants peuvent manger des bonbons, glaces et du chocolat. On fait de la magie. On peut avoir des cristaux et plus de monnaie. On va devenir roi et reine avec des couronnes très belles. On peut faire du cheval tout le temps. La rivière en chocolat. Plus de voitures. L'invention des robots. Isée Romane. Dimanche 1er mars 2014, le président de la République annonce que les parents et tous les adultes aillent vivre dans un autre pays. Dorénavant, les enfants gouvernent comme les parents sont partis. Ça fait 7 ans qu'on vit seul, ça se passe très bien. On prépare ce qu'on veut à manger, on peut regarder la télé quand on veut. On ne va plus à l'école, car il n'y a plus de maîtresse ni de maître. Si on y va, c'est pour s'amuser. On a gardé tous les sous des parents, les billets, les pièces, les cartes. On achète des jeux, on mange des bonbons matin, midi et soir. On va où on veut et toutes les maisons sont ouvertes à tous. On a des clés passe-partout. Plus besoin de fermer. Marie-Ève. À l'heure où les adultes ont détruit notre monde, laissant dans ce tumulte leurs âmes vagabondes, seul un regard d'enfant. Dénué de tout vice, pourra innocemment reconstruire une bâtisse. On me disait souvent que les grandes puissances jouaient comme des enfants sans penser aux nuisances. Cependant, j'ose dire si les mômes gouvernaient. J'y verrais des sourires, un monde satisfait. Nos dirigeants seraient élus au Shifumi. Et la paix régnerait sans les malheurs d'autrui. Bonbons, jeux et rires seraient notre devise. Et pour nous divertir, libre cours aux bêtises. Le pays des merveilles serait réalité. Dès lors, le mot « réveil » serait désactivé. On pourrait faire alors des rêves infinis où personne au dehors ne vous les assombrit. L'enfance est la préface de notre imaginaire. Ce beau et vaste espace qui contient nos chimères. Alors, laissez parler l'enfant qui est en vous. Il saura vous guider vers un grand bonheur fou. Luciana. Le texte sans parents. Si on est sans les parents, on mangerait que des bonbons et on ferait que des bêtises. On n'ira jamais à l'école et il n'y aura plus de loi et on prendrait tout dans les magasins. On fera que des jeux vidéo et on se couchera tard. On va sur la planète Mars. Laure. La nuit, les enfants dorment. En tout cas, c'est ce que pensent les adultes, innocemment. Cette nuit-là, ce n'était pas Peter Pan et ses copains qui sont venus réveiller vos enfants, mais leurs pensées. En un sursaut, les enfants du monde entier se sont réveillés avec une seule idée en tête. Prendre le pouvoir. Cette pensée était plus forte que tout le reste. Elle était hypnotique, insatiable. Et chaque enfant ayant eu cette pensée ne pouvait s'en débarrasser à moins de l'accomplir. Ils étaient ensorcelés. Il paraît, sans grande surprise, que les plus faibles, n'ayant pas réussi à supporter le poids de cette pensée, se sont jetés du haut de leurs immeubles. Et j'ai à vous dire que ni Peter Pan ni le pigeon du coin ne les ont sauvés. Bam, sur le pare-brise. Alors, les plus dignes d'entre tous ressentirent le besoin inexplicable de tuer leurs parents. Je vous arrête tout de suite. Ne trouvez pas ces enfants immondes, vous auriez fait pareil si on vous avait privé de Danette. Bon, comment vous dire qu'une fois encore, les mauviettes, par peur, se sont sacrifiées comme de vulgaires cochons. Cette nuit-là, un parent sur deux est mort. Les enfants ne sont pas doués à la tâche. Heureusement, les parents restants étaient soit à terre, en train d'ingurgiter leurs reins, soit effondrés par la mort de leur petit chaton chéri qui s'était retrouvé en miettes. C'est à ce moment-là que les enfants comprirent. Ils avaient gagné. Tous les enfants coururent se retrouver. Les centres-villes étaient devenus des terrains de foot et les restaurants des dinettes. La terre était devenue en une nuit une aire de jeu géante. Les jours passent et ce fut vite le chaos. La légende raconte que les plus coriaces vécurent un mois et 60% d'entre eux étaient devenus des ordures humaines en moins d'une semaine. Ils se laissaient mourir, rongés par la culpabilité et le chagrin. Tous se suivirent, ils tombaient comme des mouches par centaines, tous plus pleurnichards les uns que les autres. Depuis cette nuit-là, le mythe veut que tous les adultes mettent des préservatifs jusqu'à la fin des temps. Morale de l'histoire, protégez-vous. Cyrine. Allongée dans l'herbe brûlée aux couleurs du crépuscule, je me suis doucement égarée dans cet autre monde. Je bascule. Jetée dans les vagues dansantes de ce monde aux teintes éclatantes, emportée par mon bateau blanc qui me condamne à rester une enfant. Je me suis vue dans mes songes, quitter ce monde de mensonges pour enfin retrouver l'innocence de toutes les rêveries de l'enfance. Dans cet univers lointain où les adultes n'existent pas, les enfants sont souverains. Tous les vices ne sont plus là. Dans ce pays, la vie est douce. Sans l'once d'une secousse, c'est l'éternelle accalmie dans l'anarchie de ce pays. La vie y est sucrée, ce monde, il me plaît. J'aimerais y rester longtemps, accompagnée de mon bateau blanc. Je me suis éveillée, allongée dans l'herbe brûlée. Loin du monde, j'ai songé, si l'on donnait le pouvoir aux enfants. Sarah, 2096. Nous sommes à présent en mai 2096. Moi, je suis Sarah. Et au moment où j'écris ce journal, j'ai 49 ans. J'ai été médecin et j'habite dans une toute petite ville nommée Minia, mais qui s'appelait Schirmeck avant. Et malgré mon âge encore jeune, je ne pense pas que je passerai la cinquantaine. Pour ne rien vous cacher, j'ai une maladie dangereuse, enfin mortelle. J'ai malheureusement un cancer au stade 4. Vous trouverez ça plutôt bizarre, mais je crois être heureuse de cette situation. Je ne pense pas être capable de supporter cette vie encore très longtemps. Pour vous résumer cette malheureuse situation en quelques mots, nous sommes gouvernés par un régime autoritaire. Notre dictateur se nomme Tom, et à mon grand désarroi, il a seulement 15 ans. Oui, effectivement, j'ai bien écrit 15 ans. Et nous, nous sommes les trop grands, c'est-à-dire les personnes âgées de plus de 16 ans. Si je me souviens bien, on appelait ça des adultes à l'époque, avant de nous appeler les trop grands. Notre dictateur a passé la majorité de 18 à 16 ans, car pour lui, 18 ans, c'était déjà trop vieux. Lui, par contre, approche les 16 ans. On devra donc changer de dictateur prochainement. Habituellement, ils commencent leur règne à l'âge de 7 ou 8 ans. Le dictateur choisit le prochain, et ainsi de suite. Tous les trop grands sont à la retraite, enfin, je dirais plutôt au chômage. À présent, l'âge demandé pour travailler se situe entre 6 et 16 ans. Je vous laisse imaginer nos vies. Si l'on ne vient pas d'une famille aisée, il est assez dur de réussir à vivre tranquillement sans une quelconque rentrée d'argent. J'appellerais plus ça survivre. Je vous laisse imaginez l'état de notre pays. Avec l'âge requis pour travailler, il est donc impossible de faire de quelconques études et la plupart des enfants s'arrêtent avant le CM2. Aucun n'est capable de dépasser ce stade, ni même de rentrer au collège, et pour tout vous dire, il est assez compliqué de trouver un collège. Si ma mémoire est bonne, il n'en reste qu'un seul dans notre pays. Et il doit accueillir 3 professeurs, au maximum, des professeurs qui, eux, ont plus de 16 ans. Il est donc interdit de se rendre dans ce collège qui, je crois, se situe en Île-de-France. Cela signifie donc qu'il n'existe plus aucun métier tel que les médecins, les chirurgiens, plus d'infirmiers non plus, enfin, plus aucune personne n'a légalement le droit de se former pour ça. Aucune personne n'est capable de réussir à sauver des vies. Ce qui nous oblige à exercer nos métiers clandestinement, même si l'on risque beaucoup, même si l'on risque nos vies, nos si malheureuses vies. Le très jeune âge du dictateur ne l'empêche pas de nous condamner à la peine de mort, si cela devait arriver à ses oreilles. Oui, effectivement, la peine de mort a été remise en place, puis supprimée de nombreuses fois, cela varie en fonction des dictateurs. Notre peine dépend surtout de la mauvaise ou de la bonne humeur du monsieur en place, et aussi de plusieurs critères. Notre âge, plus on est âgé, plus nous avons une peine élevée. Notre statut social. Pour les enfants, le statut social est leur métier. Pour les trop grands, le statut social dépend juste de notre fortune. La police, les avocats et les juges existent encore. Avant d'être condamnés, nos avocats plaident notre cause auprès du dictateur, même si les arguments des avocats sont un peu tous les mêmes. La police, quant à elle, exécute juste les ordres du dictateur. Pareil pour les militaires. Ainsi, nous survivons dans un monde rempli de discrimination. Les trop grands sont victimes de grandes discriminations, comme un impôt supplémentaire, alors que nous n'avons pas de revenus, des supermarchés séparés, des coiffeurs séparés, pareil pour les cinémas. Cela est en place juste pour que les enfants ne nous croisent pas. Évidemment, nos espaces à nous ne sont pas propres. Ils sont plus chers. Les articles sont de sous-marque ou même pourris. Nos supermarchés sont les invendus des supermarchés des enfants. La plupart des trop grands n'osent même pas sortir de chez eux, sauf pour faire leurs courses essentielles, car nous subissons des moqueries, des critiques et des insultes quotidiennement. Le magnifique langage français a lui aussi été dégradé et la plupart des mots que je viens d'employer ont été interdits. Je ne suis de toute façon plus à ça près. Les mots, enfin certains, comme les noms des villes par exemple, ont été modifiés. Voilà dans quel monde je vis aujourd'hui, en 2096, après que les enfants aient pris le pouvoir. Sacha. En des temps immémoriaux, que personne ne saurait compter sans perdre la raison, la Terre cessa de tourner. L'humanité avait poussé à bout de force leur planète. Alors, l'astre immobile souffrit de deux températures extrêmes. D'une part, les rayons du soleil s'abattaient sur la Terre sans interruption, comme des milliers de flèches enflammées. Plus rien ne pouvait la protéger de cette abondance solaire, et elle souffrit d'une sécheresse infernale. A contrario, l'autre moitié de l'astre fut plongée dans une nuit glaciale et éternelle. Aucun brin de lumière ne put survivre dans cette obscurité insoluble, aucune source de chaleur ne sut redonner espoir à la vie. Le jour de la catastrophe, cette partie du monde vit ses frontières avec l'espace brisé. L'obscurité spatiale déferla sur lui comme un torrent insatiable avant de se heurter aux rayons du soleil. Ce combat entre ombre et lumière semblait sans issue. Chacun des deux bellicistes se partageant équitablement l'astre en pause. Puis, de cette nuit spatiale vint le froid. Un froid tellement extrême qu'aucune once de vie ne put l'affronter. C'est alors que le jour fatidique de la catastrophe, un vent glacial et céleste suivit les traces de la nuit. De son souffle intense, il figea instantanément tout sur son passage, enrobant chaque particule de matière sous son lourd manteau de glace. La Terre, éreintée, qui semblait lutter de ses faibles forces pour protéger le peu de vie qui l'habitait, affronta des températures extrêmes. Partagée entre le froid sidéral et la chaleur harassante, entre la pénombre cauchemardesque et la lumière aveuglante. Tout l'équilibre de la vie fut fracturé à cause d'une terrible soif de toujours plus que l'humanité ne sut étancher. Mais le temps passant, la planète soigna peu à peu ses plaies. Il lui fallut plus de temps encore pour s'adapter à ce nouveau climat binaire, mais elle réussit. La vie, ayant redoublé d'ingéniosité et d'adaptabilité, ressortit de cette longue épreuve métamorphosée. Au bout de quelques millénaires, la nature adopta un stratagème innovateur pour prospérer. Elle se servit de cette lumière abondante pour se fortifier et déploya sur sa moitié terrestre des racines exponentielles. Toute la végétation devint plus robuste et immense encore. La faune procéda comme elle l'eût toujours fait, sélectionnée et triée jusqu'à aboutir à un échantillon de spécimens assez forts pour vivre sans peine dans ce nouvel environnement. Des millions d'espèces disparurent et tout autant naquirent. Cette longue évolution fit muter les animaux, comme la flore. Ils grandirent, s'épaissirent pour ressentir ces températures extrêmes comme une banalité de la vie. Mais une seule règle inviolable régissait les nouveaux mondes : ne jamais traverser la frontière de l'au-delà. S'adapter au jour éternel fut si périlleux qu'il était maintenant impossible de franchir cette limite tranchante vers la pénombre. L'au-delà prit le même parti que la planète, se figer. Ce monde était entré en dormance, pensait-on. D'autres imaginaient que des créatures de l'enfer y avaient évolué. En réalité, personne n'en savait rien. C'est pourquoi cet inconnu de noirceur était le théâtre de milliers de théories plus effrayantes les unes que les autres. Mais un phénomène encore plus mystérieux se produisit. Il concernait les humains. Eux qui avaient été coupables d'une barbarie sans nom envers l'écosystème. Eux qui avaient cupidement été les commanditaires d'un génocide planétaire dont ils ont été les premières victimes. Par une curieuse justice divine, ils firent partie des rares rescapés encore présents, là où des millions d'espèces furent exterminées. L'humain également dut s'adapter au nouveau monde. Mais lui, comme chaque fois, le fit d'une façon qui lui était toute particulière. On ne saurait dire si ce fut une sanction ou une bénédiction, mais les humains aussi se figèrent. De telle façon qu'ils ne grandissent plus après 10 années de vie. Et ce, tant dans leur corps que dans leurs esprits. C'est ainsi que le monde de la lumière était traversé par des milliers d'enfants qui le resteront éternellement. Après tant d'années, les nouveaux enfants ne savaient plus à quoi ressemblait l'ancien monde. Ils avaient oublié qu'il avait été un jour possible pour eux de croître plus haut et de perdre cet esprit guidé par l'innocence qui leur est si caractéristique. Ils avaient bien déterré quelques ossements lors de chasses au trésor. Troublés par la taille du squelette qui paraissait de la même espèce qu'eux, ils en avaient déduit que c'était de précieux vestiges de géants. Confortés dans cette idée par des vieux livres de contes miraculeusement préservés de la grande sécheresse. Cette nouvelle humanité enfantine avait rebâti un monde en adéquation avec tous les livres retrouvés de l'ancienne civilisation. Ne pouvant comprendre que l'écriture des livres adaptés à leur âge, c'est-à-dire des bouquins majoritairement fantastiques, accompagnés d'images. C'est alors que leur nouvelle civilisation transforma tout naturellement les légendes en réalité et le mythique se confondit avec la réalité. On pouvait désormais voir le clan des sorcières et sorciers marchander avec des elfes, des pirates construire de solides radeaux, des indiens maîtriser leurs flèches avec une étonnante habileté ou de gracieuses fées entretenir leur potager. Beaucoup de vices que l'on croyait intrinsèques à la nature humaine furent dissipés comme par enchantement. La guerre était réduite à l'état d'un jeu exaltant. Et leurs existences ne poursuivaient aucun autre but que la gaieté. En effet, cette nouvelle ère dégageait un parfum de joie, de curiosité et d'amusement pur. La survie était simple en ces terres. La nature luxuriante produisaient assez pour nourrir encore 3 fois leur nombre. Les arbres, maintenant devenus assez immenses pour aller taquiner les nuages, produisaient à leur base d'immenses racines tentaculaires qui plongeaient tantôt profondément dans la terre, tantôt sortaient s'aérer. Ce va-et-vient végétal produisait plein de cavités qui servaient de logement aux différentes tribus, clans et villages. Ces grottes étaient tout bonnement parfaites. Elles étaient grandes et minutieusement aménagées par les enfants, ainsi que fraîches et sombres pour leux permettre de faire de merveilleux sommes, alors que le jour ne cessait d'irradier.